Bonjour, pour ce deuxième numéro de Déconfinez-vous à nous, nous avons joint par téléphone mercredi dernier Loïc, pêcheur professionnel installé sur l'île de Groix.
Je suis pêcheur seul à bord d'un petit bateau de 8 mètres à Groix. Je pratique la pêche côtière à la ligne, au casier, au filet, en ce moment surtout au casier, au filet. Voilà, je pêche les espèces de saison quand elles viennent proches de nos côtes. Je suis limité à 5 milles du port de départ en quatrième catégorie, donc c'est un petit bateau de pêche. Pour te mettre dans son contexte, du coup, il y a quatre sortes de pêche. La petite pêche côtière, c'est ce que je fais, retour au port tous les jours. La pêche côtière, m'arrête d'une semaine. La pêche au large, m'arrête 15 jours à 3 semaines. Et la grande pêche qui se fait sur des bateaux de plus de 100 mètres, les aspirateurs qui nous vendent de la bouillie plus tard. Du coup, la flottille est composée principalement de petits bateaux de pêche comme le mien. C'est eux qui sont les plus nombreux. En revanche, ils fournissent même pas 10% des captures françaises. On va rester sur la France.
Qu'est-ce que tu as au bout de ta ligne?
Alors, selon la saison, du rouget, de la sole, des homards, de la lotte. En gros, sur une petite unité de pêche comme la mienne, on va dire que je dois cibler une espèce de valeur. Si tu veux, tous les jours, tu vas à la pêche, mais tu utilises des matériels qui sont différents et adaptés aux espèces. Au filet à sole, tu vas pêcher des soles, surtout, avec quelques captures accessoires. Au filet à raie, tu vas pêcher des raies, surtout, avec quelques captures accessoires. Au casier homard, tu vas pêcher des homards. Au filet à rouget, tu vas pêcher des rougets. Il y a des espèces à forte valeur ajoutée, comme la sole, le rouget, le homard. Ça, c'est 20 euros le kilo, à peu près, un peu plus l'été. Donc, c'est bien, dans mon échelle à moi, de trouver 30 kilos de cette espèce-là par jour de pêche, pour avoir un business plan qui tient la route, c'est-à-dire 20 ou 30 kilos de ce poisson-là, plus quelques captures accessoires, des araignées, des grondins, ce qui vient autour, et pouf, ça fait un chiffre d'affaires journalier que tu multiplies par un jour de mer, et ton entreprise est viable ou pas. En gros, c'est un petit peu ça le fonctionnement. C'est le plus simple, c'est l'économie, c'est comme un couple qui a 1000 mètres carrés de maraîchage qui produit ses légumes et qui fait son petit truc. Voilà, c'est la petite pêche côtière, c'est la toute petite unité du métier de pêcheur.
Tu pêches avec des filets, des casiers et à la ligne.
Ça dépend des fois. Le métier de ligneur, comme il se pratique chez nous, donc on pose des palangues, des lignes garnies de plusieurs hameçons, de plusieurs centaines d'hameçons. Moi, je fais pas ce métier-là. En fait, quand je me suis installé à la pêche il y a 4 ans, on commençait beaucoup à parler du bar, espèce en danger, espèce pour laquelle on n'attribue plus de quota de pêche ni de licence bar pour la pêche. Voilà. Je me disais à cette époque-là que vraisemblablement se lancer dans le bar, si, par exemple ciblé, c'était pas la meilleure idée. Je ne regrette pas de ne pas m'être lancé directement dans le bar parce que c'est de plus en plus compliqué et d'empêcher pas mal et d'avoir le droit d'empêcher pas mal. Du coup, voilà. Quand je fais de la ligne, je vais à la canne ou à la ligne à main faire les macros quand ils sont là, par exemple.
Tu es un natif de l'île et d'une famille de marins pêcheurs ou tu es le premier de la lignée?
Je ne suis pas natif de l'île, je suis venu m'y installer il y a plus longtemps que je ne suis pêcheur, mais dès que j'étais venu à Groix, plutôt gamin, l'endroit m'avait plu et j'ai choisi d'y rester vivre. En revanche, je suis devenu pêcheur un peu sur le tard, à 30 ans, parce que j'avais arrêté mes boulots précédents, j'étais souvent en déplacement, j'avais envie de rester plus proche de chez moi et il a bien fallu décider de faire un truc. Et vu que j'aimais bien la pêche en tant que loisir, et ben voilà. Je suis retourné 6 mois à l'école pour faire le diplôme qui est obligatoire pour pouvoir commander un bateau de pêche. Voilà. Ensuite, j'ai dû naviguer quelques mois dans des entreprises de pêche pour pouvoir valider mon diplôme, le transformer en brevet. Et ensuite, j'ai pu acheter un bateau et démarrer mon activité. Et donc voilà, après on parle du sujet confinement, c'est pour ça que je voulais te parler des différents types de pêche qu'on peut rencontrer en France. C'est qu'on n'a pas tous été impactés de la même manière. Et paradoxalement, comme c'est déjà le cas avant même qu'on ait des problèmes de santé publique aujourd'hui, il va y avoir une histoire de compensation financière, d'aide, de subvention, d'argent public de distribuer, etc. C'est là que je voulais retomber. Ça a été très dur. Enfin, j'ai pas obtenu d'aide quand je me suis installé en tant que jeune pêcheur qui s'installe, etc. Et, a priori, il aurait été très, très compliqué d'y avoir droit là par rapport au Covid-19. Donc, j'ai ralenti mon activité par rapport à la demande, par rapport aussi au fait que je vais être bientôt papa et ça m'a permis de faire ça. Mais voilà, j'ai continué à travailler pendant la période de confinement. J'ai réduit, je faisais plus que 2 marchés par semaine. Parce que voilà, bouger le monde avec les masques et tout le bazar, nombreuses fois, c'était un peu galère. Donc voilà, un marché le mardi matin, un marché le samedi matin, masque, gants, etc. Et puis voilà, on s'est occupé comme ça depuis un mois.
À Groix, vous êtes que des petites unités.
C'est ça, à Groix, il n'y a que des petits pêcheurs. On est 2 et 3 à faire la vente directe. Il y en a un qui cible, lui, exclusivement le bar de ligne depuis toujours. Le bar de ligne, c'est un poisson qui se vend très bien dans les criées. Donc lui, il travaille exclusivement avec la criée de Lorient. Il dépose son poisson, le poisson est vendu dans la nuit suivante et il est souvent bien rémunéré. Le bar, c'est souvent entre 20 et 30, voire plus le kilo l'été, le bar de ligne. Et si on pratique des prix comme ça sur le marché, ça râle. Donc, il s'embête pas, il met ses caisses à Lorient. Et voilà, les poissons à forte valeur ajoutée comme ça, dans tous les cas, vaut mieux les vendre en face Et voilà. Et enfin, le dernier, c'est un pêcheur qui a aussi une poissonnerie sur l'île. Du coup, il partage son activité entre les deux.
T'avais pas de problème de distanciation sociale parce que tu es tout seul sur ton bateau?
Voilà, tout à fait. Là, pendant le confinement, globalement, c'est ça. Je me lève à 5 heures, je pars au port à 6. Je pars en mer, j'ai croisé personne. Je rentre au port, je mets mon poisson au frigo. Je monte dans ma voiture, je rentre chez moi. Finalement, ça ne me changeait pas beaucoup d'habitude. Voilà, c'était ça, tout seul. Donc, distanciation sociale. Et puis après, au marché. J'ai des tables qui font plus d'un mètre de large, rien qu'entre moi et le client. Donc ça, c'était déjà pas mal. On a mis un système de barrière avec un cheminement entrée-sortie pour que les gens ne se croisent pas et s'agglutinent pas devant les stands. Et puis voilà. Alors après, du coup, on est une île fréquentée comme elle l'est habituellement en hiver parce que la saison n'a pas démarré du fait du Covid. Et du coup, c'est jamais blindé, on va dire.
Est-ce que tu as eu autant de clients ou les clients étaient un peu réticents à acheter du poisson?
Écoute, il y a toujours de la demande. Alors, comme je disais, du coup, je suis tout seul et je suis un petit pêcheur. Donc, on est deux à faire le marché là en ce moment. Malgré nos efforts répétés, on a du mal à assouvir la demande. On fournit pas, on pêche pas assez de poissons pour, par rapport à la demande. Ça, c'est vrai un petit peu toute l'année. Du fait, parce qu'on travaille les produits de saison, on n'achète pas de poissons, on pêche ce qu'on pêche et on vend ce qu'on pêche. Du coup, comme je te disais, entre 20 à 30 kilos de sole, mettons, bon, ça fait déjà 600 à 700 euros. Si on en pêchait deux fois plus, ça voudrait dire qu'on serait payé 1500 euros par jour, et c'est loin d'être le cas. Du coup, au bout d'un moment, une fois que la caisse est vide, il n'y a plus, il y a encore des gens qui voudraient d'autres espèces, certaines des fois qu'on ne trouve pas chez nous, mais ou qu'on ne trouve pas chez nous à telle période de l'année. Donc voilà. Après, au niveau de la demande, je pense qu'il y a une bonne partie des gens âgés qui sont confinés bah, de fait parce que c'était vraiment risqué pour eux. Des gens allaient faire les courses pour eux, mais voilà, on a ressenti qu'il y avait moins de monde à venir faire les courses. Comme je t'ai dit, du coup, on n'a pas des volumes énormes à écouler, donc ça finit toujours par se vendre. On a également la criée de l'Orient en face qui sert d'appoint si on pêche trop, entre guillemets, on peut vendre notre poisson à la criée qui est en face.
Tu ne constates pas une baisse de ton chiffre d'affaires lié au Covid?
Non, on va dire que je ressens pas une baisse de mon chiffre d'affaires liée au Covid. Après, moi, j'ai un peu ralenti mon activité dû au Covid, dû au fait, tu dis que ma femme était dans son 8e mois de grossesse et que du coup, c'était plus simple comme ça de m'organiser. Le fait que je fasse que deux marchés par semaine, tu vois, les deux jours avant le marché, je vais à la pêche. Tu vois, j'ai pas du poisson qu'à 4 jours ni rien. Donc.
C'était pour comprendre par rapport aux aides, parce que si effectivement tu n'as pas une baisse de ton chiffre d'affaires.
Comme je suis en micro-entreprise et que ma banque allait à Lorient, il y a eu le début du confinement. Plus tard, il y a eu le moment où ils ont dit, bon, bah, les entreprises qui auront perdu 70% de leur chiffre d'affaires pourront avoir le droit à 1500 euros. Après, là, il y a des aides qui viennent de se décider pour la pêche, etc. Bon, les dossiers ont l'air d'être tellement laborieux de toute façon que je ne vais pas m'y lancer. Mais voilà, entre le fait que j'ai fait, mettons, des pêches sur la deuxième quinzaine de mars, mais que j'ai été mettre l'argent à la banque qu'en avril parce que j'ai limité vachement mes allers-retours à Lorient pendant la période de confinement. Du coup, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont calculer les chiffres d'affaires, mais l'argent de mars n'est pas l'argent d'avril. Hein. Donc voilà. Dans tous les cas, ça me paraissait un petit peu compliqué. J'avais la chance d'avoir le droit de continuer de travailler aussi. Donc bon, ça n'a pas été. Prenons avril à un mois miraculeux du fait de ce que je viens de t'expliquer, mais dans tous les cas, je ne vais pas solliciter les aides. J'ai pas perdu 70% de mon chiffre d'affaires non
Tu
plus.
n'avais pas l'interdiction de rester chez toi, tu pouvais aller travailler.
Ouais, voilà, que ce soit les gens ici qui sont bien contents de trouver du poisson frais, ou même bah, ma propre famille. Et dans tous les cas, juste pour mettre les choses dans leur contexte, j'ai ouais, entre 3 et 4 000 euros de prélèvement obligatoire professionnel par mois. Et 1500 euros, dans tous les cas, j'aurais été dans le caca. Donc, c'était pas bon. Fallait pas faire comme ça. Moi, tout décaler les crédits, demander des reports de charges qui vont être à payer le trimestre suivant, en sachant pas vraiment ce qui va se passer le trimestre suivant, parce que pour l'instant, on n'y est pas encore, et on espère que tout va s'arranger pour tout le monde, mais on n'est pas sûr. Du coup, bon, voilà, ces reports de charges, là, ouais, j'attendais de voir. Non, du coup, là où il y a eu des grosses problématiques sur la pêche, et où il y en a encore d'ailleurs pour notre sujet, au début, les bateaux ont continué d'aller en mer, se retrouvaient avec des volumes de pêche considérables cette fois-ci, parce que du coup, nous, on est la petite pêche côtière. Il y a la pêche côtière en général, ça va jusqu'à 12 mètres à peu près, des filayeurs avec 3-4 bonhommes embarqués, ça reste de la pêche côtière. Et les chalutiers qui font la langoustine sur les fonds de 100 mètres et qui rentrent débarquer toutes les nuits. Voilà, on est sur la pêche côtière. Après, tu as les bateaux qui partent à la semaine ou à la quinzaine, au chalut, plus loin, avec des bateaux plus grands, avec des engins de pêche plus performants, et qui, eux, c'est vite en centaines de tonnes qu'ils ont du poisson. Et quand ils ont quitté leur foyer pour une semaine, 8 jours, 9 jours, qui ramènent quelques tonnes de poissons, qui les mettent en criée et qu'on leur annonce qu'ils sont pas vendus, qui partent en farine animale à 40 centimes, et voilà, bon, ça motive pas à retourner en mer. Donc, il y a plein de bateaux de cette taille-là. Quand ils appartiennent à des armements, des gros armements, qui ont 8 bateaux, 10 bateaux, 6 bateaux, la plupart de ceux-là ont continué d'aller travailler parce qu'ils ont des réseaux de distribution un petit peu perso, que ce soit la grande distribution, etc. En revanche, les autres, quand c'est un chalutier de 20 mètres qui part faire les marées dont je viens de te parler, de 8 jours, mais qui appartient à un bonhomme, du coup, qui a un endettement de 3 ou 4 millions d'euros dessus pour amortir son truc, et ben lui, quand ça part à la poubelle une semaine, il est dépité. La deuxième semaine, il n'a même pas le droit que ça se reproduise. Du coup, il reste à la maison. Il y en a plein qui ont fait ça, qui sont restés à la maison. J'ai pas regardé exactement comment allait être mis en place le système d'aide pour ces bateaux-là parce que je suis pas concerné. Mais il y en a plein pour qui ça a été long, là. Un mois et demi, ils sont pas sortis en mer du tout.
Va arriver à t'en sortir, mais c'est ton modèle aussi qui permet de ne pas trop souffrir du Covid, parce que toi, tu as une pêche, alors je sais pas comment tu veux la qualifier, de raisonnable ou de raisonnée.
Et ben, les deux dans tous les cas, par la force des choses. Alors du coup, bon, c'est un choix, hein, d'avoir un petit bateau, une petite entreprise, des emmerdes relativement petites. Et ouais, du coup, un fonctionnement que moi, j'ai tendance à trouver logique. Je te parlais tout à l'heure des petits maraîchers, là, c'était un peu pareil. J'ai l'occasion d'en parler. On voit surtout que c'est un modèle où on est peu énergivore. Alors, ça peut paraître beaucoup. Moi, je fais un plein de 300 litres de gasoil par mois, ce qui est vraiment pas beaucoup pour la pêche, pour mon bateau. Tu vois, je vais en mer une vingtaine de jours par mois. Et ce que je voulais dire, c'est que des petits pêcheurs comme moi, qui vendent des faibles volumes de poissons comme moi et qui ont un relativement faible impact, même si tout le monde a un impact, on a un relativement faible impact sur et la ressource et l'environnement en général, on n'est plus assez nombreux. Je crois que sur 6000 bateaux, il y en a eu 1000 de moins entre 2007 et 2017. C'est un truc de l'Ifremer il n'y a pas longtemps. Cette flottille-là est en train de s'effondrer complètement depuis une trentaine d'années, alors que faible impact et surtout disponibilité donc écologique, économique et sociale. Je veux pêcher, ma femme vend le poisson, ça fait pas de miracle, mais ça fonctionne. Et surtout dans un endroit comme Groix, on est 5 à le faire. Voilà, et limite, ça suffirait pas. À Lorient, ils sont à peine une dizaine sur un port qui est le premier port de France. Des petits bateaux, il en reste presque plus. Alors que partout dans les villes et sur le littoral français, pourrait y avoir des petits bateaux qui seraient aidés, parce que la petite pêche est jamais aidée. Au moins aider les jeunes à s'installer, donner des coups de pouce, mettre en place des trucs pour que voilà, ces gens qui ont un faible impact, qui arrivent à faire vivre un foyer en ayant un tout petit impact, ça pourrait se multiplier, il pourrait y en avoir un petit peu dans tous les coins. Voilà, la vente de produits frais, les gens sont hyper demandeurs de ça. Et voilà, au niveau social, c'est super important.
C'est une façon aussi de gérer la ressource des poissons, des crustacés.
C'est dingue parce que tout est lié. J'ai tendance souvent à le mettre en opposition au reste. En fait, la plupart des bateaux de pêche prélèvent des volumes énormes en consommant beaucoup de gasoil et malheureusement en rémunérant pas toujours comme il faudrait. Il y a un énorme turnover dans le personnel de la pêche parce que la pêche au large, c'est un métier qui est pénible. Alors certains armements partagent mieux les rémunérations. Tu sais, c'est des rémunérations à la part. Donc selon l'armement, il y a des grosses parts dédiées à l'armement, un peu moins fortes, etc. Sur la part qui reste à l'équipage, il faut déduire les frais communs, donc la consommation de gasoil, la nourriture, l'huile d'entretien, etc. Et ensuite, il reste le salaire. Bon, je me base sur certains copains qui ont fait des armements à la Seine danoise, au Pélagique, etc. Il y a des moments où c'est la saison où ces bateaux-là vont cartonner, où ils font des bonnes payes, mais le reste du temps, c'est pas toujours génial. Des fois, ils sont un peu dégoûtés de voir le volume d'argent qui est consacré au gasoil, entre autres, et sur les payes, ça se voit vraiment. Bon, voilà, je dis écologique, économique et social. Les directives d'aujourd'hui, l'Europe, les aides à la pêche, etc., vont, comme à l'agriculture, au modèle industriel, des lobbies, l'agriculture, elle a le sien, la pêche aussi, qui font que les gros rafle l'argent, les petits disparaissent progressivement, et t'as l'impression que, quel que soit le secteur d'activité aujourd'hui, c'est un petit peu pareil, les gros. Et voilà, en tout cas, le message, c'est ça, c'est que à la pêche, il y a de la place pour en mettre un petit peu partout sur le littoral français, des petits bateaux avec des petites échoppes qui vendent du poisson frais, que souvent, on va payer de meilleure qualité, qu'on va payer moins cher qu'en grande surface.
D'après ton témoignage, tu es en train de nous démontrer que la carrière de pêcheur, selon ton fonctionnement, c'est possible. Donc en fait, personne n'ose se lancer alors que c'est économiquement viable.
Pour retracer tout le cheminement, il y a plusieurs raisons. Aujourd'hui, on a une opinion publique qui, à mon avis, porte un regard sur la pêche assez dur. Je pense qu'elle a raison. Alors, l'opinion publique, elle connaît pas tout, les tenants, les aboutissants, les visions, etc. Il y a la toute petite pêche, la moyenne, la grande, la très grande. Elles ont toutes leurs qualités et leurs défauts. Simplement, il y en a qu'on, je pense, moins de défauts. Et les vocations pour devenir pêcheur sont de plus en plus rares. Il existe encore des écoles de pêche. À chaque fois que tu veux avoir un diplôme, le convertir en brevet, tu dois trouver des temps de navigation. Et trouver des temps de navigation, c'est pas facile, parce que quand sur un bateau tout se passe bien, il n'y a pas besoin de gens en plus. En petite pêche côtière, moi, c'est un peu raide pour embaucher quelqu'un, par exemple. Tout seul, ça le fait. Je pense que s'il fallait que j'embauche quelqu'un, je devrais mettre plus de filets, passer plus de temps dans ma journée en mer. Le modèle du moment me convient pour l'instant et je souhaite pas le faire, même si, bon, des fois, j'y réfléchis. Ou alors, il faudrait que ce soit un jeune qui voudrait justement embrasser la carrière et qui aurait besoin d'un coup de pouce pour valider son diplôme. Je l'ai fait une fois déjà, tu vois, deux mois. Il lui manquait deux mois. Il voulait faire la pêche plus tard. Je lui dis, viens avec moi. Hop. Et voilà. Mais du coup, sinon, la plupart de mes potes qui ont fait ça, qui ont fait le diplôme théorique, il faut aller en mer derrière pour naviguer. Là, ils se font 15 jours, 3 semaines au chalut, qui font un coup de barre hors taille en rentrant à la côte, en débranchant leur AIS, et puis ensuite qui sont payés au lance-pierre avec un chèque de 7 euros pour les 15 jours. Enfin, toutes sortes de trucs d'horreur où les mecs racistes jusqu'à la moelle. Enfin, des horreurs, il n'y a pas que ça, heureusement, mais malheureusement, ça existe. Et du coup, enfin, ouais, t'as l'impression qu'il y a une espèce de dégoût au fur et à mesure. Alors, bien sûr, si quelqu'un m'entend et qu'il est amoureux de son métier au chalut à la pêche, super. Je dirais qu'on ne motive pas. Et encore une fois, le couple de maraîchers qui réussit son truc, ah, il travaille, c'est sûr, moi aussi. Mais on nous montre pas, on n'est pas très visible. Enfin, voilà, c'est plutôt écolabel avec des chalutiers de 25 mètres qui pêchent je ne sais pas combien. Parce que le danger, du coup, de ces bateaux-là, quand ils travaillent à la côte, les chalutiers, les pélagiques, les scènes danoises, etc., c'est que ça pêche très, très bien. Mais du coup, quand tu pêches très, très bien 4 tonnes de bar ou 4 tonnes de dorade par jour, bah, le petit pêcheur, quand lui, il amène sa dorade à la criée, il la vend 1 euro. Parce que quand il y a 100 kilos, c'est 10 euros le kilo. Quand il y a 4 tonnes, c'est 1 euro. Toi, t'arrives avec 100 kilos, t'as fait un carton, bon, bah, ça fait 100 euros, donc du coup, t'as perdu des sous. Voilà, ce genre de choses, ça existe, surtout l'hiver, mais ça existe beaucoup, même, c'est la norme, quoi. D'où l'intérêt pour les petits pêcheurs comme nous de faire de la vente directe, des fois, c'est de vendre un peu mieux notre poisson, bah, parce que sinon, c'est pas cool.
Qu'est-ce que la scène danoise?
En fait, du coup, la scène danoise, bon, je suis pas un expert non plus, c'est un engin de pêche qui est utilisé relativement récemment sur nos côtes bretonnes. C'est comme un chalut, où si j'ai bien compris, tu déroules un câble en complément. Et au moment où tu relèves l'engin, le câble se met en vibration, il fait comme un mur, le poisson ne franchit pas la vibration, il est directement dans la scène du coup. Et selon les espèces que tu cibles et comment tu l'utilises, ça fonctionne vraiment bien. Là où je déplore des fois, l'année dernière, parce que ça a commencé par chez nous, et donc souvent, vu que ça marche très bien, tu cibles des espèces qui ne sont pas sous quota. En ce qui nous concerne, là, la sèche, l'encornet, le rouget, on a eu un effondrement des cours à la criée de l'Orient l'année dernière sur le rouget, qu'on est habitué à vendre à peu près 15-20 euros, et qui est tombé à 3 euros, 4 euros, parce qu'il y avait des apports trop forts, le moyen de pêche est super performant et bien utilisé, il cartonne, c'est sûr. Et pêcher plusieurs tonnes à 4 euros, c'est toujours plus rentable que de pêcher 200 kilos proprement. Donc c'est un nouvel outil de pêche qui est encouragé et je ne suis pas sûr que ce soit bon pour les rougets et les sèches.
Mais quand on pratique la vente directe, il n'y a pas une pression des clients en disant bah tiens, au supermarché, je peux avoir des encornets à 1 euro le kilo et vous me les faites à 5, ça va pas quoi.
Ouais, alors là, je dirais que si, bien sûr, j'en entends de temps en temps parce que je pense qu'on est relativement raisonnable sur les prix. Enfin voilà, étant donné qu'on vend notre poisson, c'est que les gens reviennent, nous aiment bien et ils doivent pas trouver ça si cher que ça. Par contre, là où il y a un couac, et tu as raison d'en parler, c'est que quand un métier d'un coup permet de gros apports sur une espèce, que les gens sont habitués à payer tel prix. En rouget, ils sont habitués à payer ça 20 euros, 15 euros. Ça dépend si on est à Paris, c'est 40. Si on est à Lorient, bah, c'est plutôt 20 euros, 25. Et là, d'un coup, paf, le poisson, il y en a trop, se vend mal en criée. Mais les gens se disent, bah, attends, les gens sont habitués à acheter ça 15, d'habitude, j'achète ça 12. Là, je l'achète 4. Je vais le mettre à 15. Comme ça, ce coup-là, je vais faire un petit coup. Et puis voilà, en fait, c'est ça, souvent, là, moi, je vois sur Facebook, pas mal de gars qui gueulent parce qu'ils ont été en mer malgré le confinement, etc. Leur pêche s'est mal vendue. Par contre, celui qui l'a acheté sur l'étal de supermarché, le poisson est au même prix. Et là, j'ai plein de copains qui sont sur des bateaux un peu plus gros, même au chalut, au casier, en fin de Bretagne et tout, et ils sont mis à faire de la vente directe là. Même à Lorient, hein, des copains qui font la langoustine, ils mettent des affiches et ils vendent une partie de leur pêche en vente directe parce qu'ils se sont aperçus du coup que malgré l'effondrement des prix, la répercussion, elle n'avait pas suivi derrière. Là, on parle du coup, on est le 5 mai, et ben, je lis plutôt qu'il y a un problème sur les produits frais, viande, poisson, légumes, fruits, que tout est beaucoup plus cher qu'avant le confinement dans les magasins. Alors que pour le poisson, bon ben, les espèces continuent bien se vendre, mais il y a quand même une période de latence où un jour tu vendais bien, hein, le lendemain ça se cassait la figure complètement les prix. Je suis pas sûr qu'il y ait eu une super répercussion de ça aux yeux du grand public.
On peut considérer que tu t'en sors bien.
Bah, en tout cas, j'ai eu le droit de travailler, de vendre mon poisson, donc je me plains pas.
Comment ça se passe le confinement sur l'île de Groix?
Écoute, je trouve que ça a été vachement bien respecté par la population. Bon, du coup, à mes allers-retours à 6 h du matin, je croise vraiment pas grand monde. Je crois que ça a été bien respecté. Je crois qu'au début, il y a eu quelques aventureux de sentiers côtiers et de plages. Il y a eu quelques amendes. Du coup, ça a un petit peu dissuadé les gens. J'ai l'impression que les gens ont fait assez gaffe. Là, maintenant, ça commence à parler de réouverture de plein de trucs. du métro, oui, et de la plage, non. Donc, forcément, tout le monde commence à en avoir ras-le-bol et a hâte que ça se termine. Mais les gens font gaffe, croisent beaucoup, beaucoup de gens avec des masques. Voilà. Après, du coup, ici, tu sais, on a une gendarmerie quand même, un policier, etc. Donc, il y a de la surveillance et puis, donc, ça s'est bien passé.
Le festival.
Ouais, bah, c'est pareil. Je pense qu'ils ont anticipé une annulation, comme tous les festivals d'ailleurs, avant qu'il soit trop tard, d'avoir engagé des frais qui pourraient pas suivre derrière. C'est dommage, mais je suis sûr qu'ils feront 10 fois mieux l'année prochaine, du coup, voilà. Et puis, s'il s'avère que l'épidémie disparaît pour de vrai, qu'on a le droit d'avoir une saison estivale, il sera encore pas trop tard pour improviser un concert et une projection. Je suis pas dans leur tête, mais je suis sûr qu'ils ont ça. Ils ont ça dans un coin de la leur. Donc, on travaille essentiellement grâce au tourisme. Il y a beaucoup, beaucoup d'activités qui sont liées au tourisme. Les restos, les bars, les loueurs de vélos, j'en oublie certainement beaucoup. Ces gens-là commencent à travailler très correctement, je pense, en avril. C'est d'avril à septembre, ça dure 6 mois, c'est ouvert 6 mois. Et avril-mai, quand il fait beau, les gens viennent sur les îles. Donc, bon, moi, je suis méga inquiet pour les restos et les bars. J'espère que la plupart auront les reins solides et sauront, voilà, passer l'épreuve. Mais pour eux, il est clairement temps que ça s'arrête et qu'ils aient le droit de bosser parce que c'est raide, raide, non, non, c'est galère pour plein de boîtes, là.
Ça aura un impact sur l'économie générale de l'île.
Ben ouais, j'en ai peur. Ceux qui ont réussi à pas perdre d'argent, ce sera super cool. Il reste juin, juillet, août. Si tout ça marche, c'est super. Après, on va voir comment ça déconfine et comment ils auront le droit de travailler.
Mais ça va être compliqué de se baigner 1,50 m, d'avoir ces mètres carrés de sécurité sanitaire.
J'ai de la chance, j'ai pas posé cette question-là, mais t'as raison, c'est affreux. Les restos qui avaient un peu de place, ils peuvent supprimer 3 tables et les espacer un peu. Celui qui était déjà raide à rentrer 25 couverts, qui va devoir enlever 4 tables, il est pas bien non plus. Donc,
Juste là, comment ça se passait au niveau de la navette entre Lorient et
il y
Groix?
avait avant 5 allers-retours par jour entre Lorient et Groix, avec 400 places à peu près, ou 350 places. Pendant le Covid, là, c'était un aller-retour le matin, un aller-retour le soir, limité à 100 places et avec priorité dans l'ordre au personnel soignant, au transport de denrées alimentaires, ensuite les insulaires, ensuite les titulaires d'un abonnement qui font l'aller-retour sur le continent. Et puis du coup, les gens devaient respecter les 1 km de chez eux. Donc, il n'y avait pas grand monde dans les bateaux. Moi, je l'ai pris une fois parce que ma femme a dû aller à l'hôpital. On était 10 dans le bateau.
Loïc, tu nous as bien témoigné de ta situation.
Même s'il y a un parcours du combattant administratif pour réussir à s'installer. Je dis pas qu'il faut que tout le monde fasse comme moi, mais si ça peut motiver quelques personnes, voilà, il y a quelques papiers à faire au départ, et puis derrière, voilà, on fait un métier qui est sympa au grand air, et celui qui travaille un petit peu, il peut gagner sa croûte. Du coup, voilà, sans prélever beaucoup, il y a moyen de faire le truc correct.
Merci à Loïc pour sa libre participation à ce deuxième numéro de Déconfinez-vous à nous.
C'est pour quand la prochaine naissance?
Le terme, c'est le 11 mai. On va faire du cross dans les chemins de terre pour essayer de que ce soit avant, mais pour l'instant, ça marche pas.
Mais non, c'est une belle date, c'est une date de déconfinement.
Ouais.
Le petit, il est confiné, il a envie de sortir.
Dis ça à la maman, elle en peut plus.